Bonjour à tous. C'est chouette de vous voir. On a l'impression d'être une petite famille. Hein. J'aime bien comme ça. On peut juste prier. Alléluia, papa. Seigneur, vraiment, c'est bon de se retrouver devant toi. C'est bon d'être rassemblé par ton amour, de savoir que tu es là, que nous sommes rassemblés parce que toi, tu es le Dieu vivant, parce que tu es présent. Seigneur, je te loue parce que chacun de nous te connaît, chacun de nous a une vie personnelle avec toi, a une connexion avec toi et tu veux nous toucher chacun, tu veux nous parler, Seigneur, et nous dépendons les uns des autres. Donne-nous de grandir ensemble, d'avancer ensemble, de nous rapprocher les uns des autres. Alléluia, Seigneur, je te prie vraiment pour ce temps, que tu me mettes, que tu me fortifies, que tu mettes tes paroles dans ma bouche. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. J'aimerais qu'on prenne dans Luc 19. Alors, le chapitre de Luc commence par l'histoire de Zachée. Vous la connaissez tous. Et puis ensuite, on continue au verset 11. On peut lire déjà au verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et toute la foule qui était autour de lui écoutait ces choses. Et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Donc Jésus arrive à Jérusalem. Et tous les juifs qui sont là, tous les disciples, savent très bien qu'il y a des promesses dans tout l'Ancien Testament qui annonçaient que le Messie devait venir, que le royaume de Dieu allait être établi et qu'enfin il allait y avoir la paix. Et ils se disaient, maintenant c'est le moment. Ça y est, Jésus est là, il arrive à Jérusalem. C'est l'instant et la seconde où le royaume de Dieu va s'établir. Et ils étaient tous dans l'attente, dans l'expectative. Hein, on parlait ce matin de Alice, elle a vu. Quand Jésus arrivait à Jérusalem, il y en a qui attendaient la gloire, d'autres moments on a vu la souffrance. Et là, les disciples, ils attendaient cette gloire. Ils attendaient l'établissement de Jésus comme roi des rois et seigneur de seigneurs. Et Jésus, il ne dit rien. Il ne contredit pas particulièrement. Regardez ce qu'il dit. Alors Jésus leur dit, écoutez les gars, il faut que je vais vous dire une chose. Hein. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Et pour revenir par la suite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 talents, 10 richesses, hein, 10... je ne me rappelle plus, j'avais fait le calcul, mais je n'ai pas noté. C'est plusieurs jours de salaire. Et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Il semble que c'est quelque chose dans l'ordre de 10 000 euros. Mais ses concitoyens le haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade auprès de lui, pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Donc voilà, il y a un homme de haute naissance, un homme riche, un homme puissant. Il s'en va dans un autre pays, il va certainement chez un genre d'empereur, et il doit recevoir la royauté pour une région. Le temps qu'il parte, il appelle 10 de ses serviteurs, il leur donne une certaine base d'argent, une certaine richesse à investir, et il dit « faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne ». Voilà ce que Jésus répond. Quand on attend le royaume, et là on a un verset particulier, mais ses concitoyens le haïssaient. D'où vient cette haine? On ne sait pas. Ils le haïssent à tel point qu'ils ne veulent pas que cet homme règne sur eux. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, donc il revient en tant que roi, il fit appeler auprès de lui les serviteurs. Donc ça c'est toute l'histoire des talents. Il y en a un qui a rapporté 10 fois plus, 2 fois plus, l'autre aussi. Et le dernier n'a rien fait. Il a peur du Seigneur, du roi, il dit que c'est un homme méchant et tout, il l'enterre, il ne fait rien. Alors le roi lui dit au verset 24, puisqu'il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la somme que j'avais donnée et donnez-la à celui qui a déjà les 10 mines. Ils lui dirent, mais Seigneur, c'est celui qui en a déjà 10. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. D'ailleurs, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les. En ma présence. Tuez-les en ma présence. Voilà ce que Jésus répond à ceux qui attendaient le royaume de Dieu à l'instant. Il parle d'un roi qui s'en va, d'un maître, il s'en va, il revient en tant que roi. Il a fourni une certaine somme d'argent à plusieurs, une dizaine. Il a dit faites-le enrichir, faites-le grandir, faites-le croître. Et mais il y en a qui ne voulaient pas de lui. Et quand il revient, il demande des comptes à chacun. Et à la fin, il dit, ceux qui n'ont pas voulu de moi, tuez-les en ma présence. Et j'aimerais parler de ce temps qui arrive devant nous. Je pense qu'on est dans des temps vraiment sérieux. On ne peut pas éviter maintenant de dire qu'on rentre dans les temps de la révélation de Jésus-Christ, hein, si je peux le dire ainsi. Vous savez que les noms de la Bible, ils portaient le nom du premier mot qui était devant. Deutéronome, etc. Chaque fois, c'était le nom, en hébreu, le premier mot du livre donne le nom au livre. Et donc notre livre, il devrait s'appeler pas l'Apocalypse, mais la révélation de qui ? De Jésus-Christ. Donc on rentre dans des temps d'Apocalypse, et on l'avait déjà dit, l'Apocalypse pour nous résonne comme un temps de difficulté particulière, ce qui est vrai. Mais nos oreilles doivent commencer à entendre révélation de Jésus-Christ. On rentre dans les temps de la révélation de Jésus-Christ. Le roi est parti, il va revenir comme un grand roi, comme un roi puissant. Les temps dans lesquels nous entrons sont vraiment difficiles, on le voit au niveau des dettes des pays, on voit les États-Unis, la dette est remise en question. C'est un pays qui, du jour au lendemain, on pourrait dire qu'il pourrait s'écrouler, on ne comprend même pas entièrement pourquoi. Il y a des guerres partout, il y a des tremblements de terre, il y a des famines. Tous les signes que Jésus avait dit, ils sont déjà là. Tout ce qu'ils vont faire maintenant, ils vont encore s'accroître. Ils vont se multiplier, les guerres vont augmenter, les famines vont augmenter, les maladies vont augmenter, les problèmes d'argent vont augmenter. Tout va devenir de plus en plus dur. Le chaos va augmenter, c'est sûr. Il y a un agenda, certainement, on le sent bien, pour qu'il y ait un gouvernement unique qui se propage. Parce que celui qui doit venir, on peut lire dans 2 Thessaloniciens 2, je voudrais lire le passage plus tard tout entier, mais là on va lire juste au verset 3. À un moment donné, il dit « Il faut qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. » Il faut qu'il paraisse. Il y a une apparition, il y a deux apparitions qui sont devant nous. Il y a une apparition d'un homme impie, d'un homme méchant, et il y a l'apparition du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et cet homme impie, il va venir, il ne vient pas tout seul. Il vient parce qu'il est établi par un système. Il y a un système qui est mis en place, qui est d'accord avec l'ennemi, avec le Satan, pour dominer le monde. Ce que l'ennemi veut, c'est enfin entrer dans sa royauté des royaumes de la terre. Il sait que les royaumes, quelque part, lui ont été soumis par Adam. Mais il n'a jamais été reconnu comme le roi de ces nations. Il a toujours été là, en cachette, en tapis mini. Et il essaie de faire des choses. Mais son objectif, son but, c'est que les nations lui soient soumises. Et ce qu'il est en train de faire, ce qui est en train de se passer, c'est que toutes ces nations vont devoir, à un moment donné, obéir, rentrer dans un courant pour obéir à cet homme qui va paraître. Et cet homme va travailler en concert directement avec Satan. Satan sera reconnu. Déjà maintenant, quand on entend tout ce qui se passe, quand on voit des fois des films, des vidéos, par rapport à des choses sataniques qui existent, ou des concerts, des choses comme ça, c'est incroyable. C'est déjà accepté, reconnu et presque recherché. L'ennemi est en train de vouloir établir un règne. Et quel est l'objectif final ? Il sait que Jésus doit venir. Il en a peur. Et il veut essayer de contrer la venue du roi des rois. Il le hait. Il ne veut pas que cet homme règne sur nous. Et il y a des hommes qui se sont mis d'accord avec Satan pour dire on hait ce Jésus-là. On ne veut pas qu'il vienne comme roi. On ne veut pas qu'il règne sur nous. Il y a toute cette action est en place. Et souvent, on parle de l'enlèvement. Est-ce que vous étiez comme moi quand j'étais jeune, j'avais peur que l'enlèvement arrive. Je me disais, je vais être enlevé, le Seigneur va venir me prendre. Je vous l'avais dit, je crois que j'ai aussi déjà dit. Je me disais, j'arriverai pas à mes 18 ans. J'étais certain. Pour moi, il n'y avait pas d'avenir, j'avais aucune perspective, aucune projection. Parce que de toute façon, Jésus allait pas, c'est pas possible autrement que Jésus revienne avant mes 18 ans et que je sois enlevé. Et vous savez que l'enlèvement n'existe presque pas dans la parole en tant que tel. Il y a une fois le mot enlevé dans Thessaloniciens, mais autrement, ce qui existe comme mot, c'est la venue, c'est l'apparition, c'est l'éclat. Il y a deux mots en hébreu, c'est parousie Et épiphanie, parousie, c'est le fait de dire, c'est la présence. Premièrement, déjà, le premier sens de parousie, c'est présence. Deuxième sens, c'est venu, arrivé, avènement. Et alors, on peut lire les textes qui parlent de l'avènement de Jésus, dans, par exemple dans Matthieu. Et là, déjà, les disciples, ils savent très bien qu'il doit y avoir un avènement de Jésus. Ils lui posent la question de nouveau. Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe de ton avènement, parousie, et de la fin du monde ? Dans 1 Thessaloniciens 2, 19, qui est en effet notre espérance ou notre joie, notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus, lors de sa parousie, lors de son événement, l'avènement ? 1 Thessaloniciens 3, 13, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. 1 Thessaloniciens 4, c'est marrant, dans 1 Thessaloniciens, dans presque chaque 4, tous les 4 chapitres, il parle une fois de l'avènement. Nous, les vivants, restés pour la parousie, pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, afin que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement, de la parousie de notre Seigneur Jésus. Donc, parousie, c'est une venue. C'est quelqu'un qui vient, qui paraît, qui prend une place. Et c'est lié à présence, en fait. C'est une présence qui se manifeste. Dans, chaque fois qu'on lit parousie, on pourrait presque dire que Jésus est déjà là. Et vous savez que dans, il y a un passage qui dit que l'Antéchrist est déjà là. Il vient et il est déjà là. C'est dans 1 Jean. L'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist est là. Ce qui veut s'opposer à Christ, ce qui le hait, ce qui ne veut pas que Jésus règne sur nous, ce qui s'oppose à Jésus est déjà dans le monde. C'est déjà là et en même temps il faut qu'il apparaisse. Il faut qu'il y ait un homme particulier qui apparaisse avec cet esprit. Il y aura une parousie de l'Antéchrist. Mais il y a une parousie de Jésus-Christ. Il y a une parousie de notre roi pour ceux qui le veulent. Et cette parousie, c'est-à-dire que Jésus-Christ est déjà là, il est au milieu de nous comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et nous le louerons et nous l'adorons. Nous n'adorons pas un Dieu lointain qui est loin, on ne sait pas trop où, il est au milieu de nous. Il est là. Simplement sa présence, il ne l'a pas rendue visible. Vous avez déjà tous vu toutes ces séries avec de scientifiques, de recherches, etc. Des fois, il y a des marques de sang sur le mur. Et puis, en fait, si vous n'utilisez pas un produit spécial, vous ne voyez rien du tout. Il n'y a pas de sang. On ne voit pas quelqu'un à nettoyer. C'est hyper propre, nickel. Et d'un coup, quelqu'un vient avec un produit. Il asperge les marques et qu'est-ce qu'on voit ? Des marques de sang partout. Jésus, c'est pareil. Il est là partout. On ne le voit pas. Le produit qui le permet de le voir, de voir sa gloire, n'a pas été projeté. Mais un jour, ce temps arrive. Le Seigneur va enlever tout ce qui nous cache sa vue. Il va jeter sa gloire sur lui, sa lumière, et il va paraître. On va le voir dans toute sa gloire et sa splendeur. Il sera là d'un coup devant nous. Comme il va venir entièrement, ça lui appartient. Peut-être qu'il va parcourir les nations de la terre, je ne sais pas entièrement. Il va venir d'en haut. Il a une façon de venir qui lui est propre. Mais en tout cas, il sera là. C'est sa parousie. Et il est déjà présent. Et sa présence sera manifestée avec gloire et un grand éclat. Le deuxième mot. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai noté tous les versets qui disent de parousie pour la présence. Par exemple, Paul dit à un moment donné, « Je me réjouis de la parousie de Stéphane, Fortunus et Aïcus, ils ont supplié à votre absence. C'était une parousie. J'ai été consolé par la parousie de Tite, etc. » La parousie, c'est être là et en même temps, c'est une arrivée. Il y a une présence et qui remplit le lieu. Ce n'est pas une présence, je viens et je m'en vais. L'enlèvement qu'on a dans nos têtes, c'est je viens, je vous prends et on s'en va. La parousie de Jésus, je viens, je vous prends et on s'installe. Je viens, je vous prends et on règne. Le Seigneur va venir, il va vouloir commencer, il va s'opposer à toutes les nations qui seront venues faire la guerre à son peuple et à Israël. Il y aura une grande guerre, il y a beaucoup d'opposition. Et à un moment donné, Jésus va venir lui-même. Il va faire la guerre à des nations. Et ces nations, il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts par milliers, par millions. Parce que Jésus lui-même va combattre. Il dit « Je combattrai avec l'épée qui est dans ma bouche. » il va y avoir du sang. On dit que dans la vallée de Megiddo, il y aura des millions de mètres cubes de sang. Il dit, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, tuez-les en ma présence. Et une fois qu'il sera venu, il va établir son règne dans le temple à Jérusalem. Il vient pour régner. Il vient pour que les nations commencent à être changées, guéries. Et ceux qui vont régner avec lui, ce seront tous ceux qui auront cru en lui, qui l'auront suivi déjà maintenant, qui auront marché derrière lui, même s'ils ne le voient pas avec les yeux de leurs yeux physiques. Jésus est là comme les marques de sang sur le mur. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, tu ne le comprends peut-être même pas, tu ne l'entends peut-être même pas, mais il est là. Et il marche, et toi tu le suis. Tu le suis parce que maintenant, le Seigneur a parlé à ton cœur, il a mis de la foi en toi, et cette foi qui n'est pas nécessairement physique, elle te parle, elle te dit, je suis là, je suis ton roi, je suis ton Seigneur, je suis celui qui règne, je suis celui qui s'est révélé à toi, je suis celui qui te parle à travers de la parole. Suis-moi, marche avec moi, parce qu'un jour, dans peu de temps, je serai visible. Et là, quand je serai visible, il n'y aura plus de choix. Je serai le roi qui règne au-dessus de tout. Je manifesterai ma puissance, ma grandeur et ma gloire. Il n'y aura pas de choix. Ou tu seras de ceux qui seront jugés et condamnés, ou tu seras ceux qui seront glorifiés avec moi. Et ceux qui seront glorifiés avec moi, ils recevront de l'autorité sur des villes et des nations en mesure de ce qu'ils auront investi dans mon royaume. Tout l'argent que tu reçois, toute la richesse que tu reçois, elle n'est pas là pour que tu te serves, pour que tu établisses ta vie, pour que tu établisses ton bien-être. Il est là pour que tu investisses dans le royaume. Tout l'argent qu'on peut recevoir et tout l'argent qu'on risque de recevoir dans l'avenir, parce que les promesses de Dieu sont là, n'est pas là pour que je m'enrichisse. Il est là pour que j'investisse dans le royaume. Si le Seigneur me demande d'acheter, ok, pas de souci. On peut acheter peut-être des maisons, etc. J'achèterai selon ce que Dieu me dira. J'utiliserai l'argent, pas pour moi, pour mon bien-être, mais pour l'avance, pour le royaume de Dieu. C'est notre appel. Et on doit l'apprendre maintenant. Dès maintenant, on doit apprendre à gérer cet argent. On est tout début d'apprentissage, mais on doit apprendre vite. Parce que le Seigneur, il a dit, je leur ai donné des mines. Il y en a qui ont investi correctement, ils ont fait valoir leur argent. Et un autre, il l'a juste caché. Il a eu peur. Et quand je suis revenu, il m'a juste redonné ce que je lui avais déjà donné. Celui-là, je l'ai enlevé ce qu'il avait et je l'ai donné à d'autres parce qu'il n'a pas investi dans mon royaume. Si ce que tu as, tu ne l'investis pas dans le royaume, ce que tu penses avoir, un jour, tu ne l'auras plus. Ce que tu ne mets pas dans le royaume est perdu pour toi. Ce qui ne va pas dans le royaume est perdu pour toi. Tu ne l'auras plus, ça te sera enlevé. Je ne dis pas que c'est perdu pour le royaume puisqu'il l'a redonné à quelqu'un qui avait déjà. Mais pour toi, c'est perdu. Un jour, tu te retrouveras sans ce que tu croyais avoir. Dieu nous demande d'investir. Il viendra peut-être des temps où j'achèterai pour quelqu'un d'autre. Cette semaine, on a vécu un petit truc marrant. À un moment donné, pendant les soldes, j'avais vu des chaussures que je trouvais pas mal. Et puis, je me suis aperçu que c'était des chaussures de sécurité. Je les ai achetées, ça coûtait pas cher, elles étaient bien. Je me suis dit, mais pourquoi tu prends ça? Ça te sert à rien. Donald disait, mais c'est pas les chaussures que j'aime, tu vas pas te promener avec ça et tout. Je disais, ouais, mais je comprends pas, je les ai prises. Et cette semaine, j'ai une collègue de travail, elle vient, elle me dit, écoute, on va à une colo, on va s'occuper de la cuisine, et mon mari cherche des chaussures. Il faudrait des chaussures de type sécurité. À tout hasard, je te demande ça à toi, mais il n'y a pas de raison que tu en aies, mais bon. Écoute, ouais, j'en ai. Et il fait quelle pointure? Ben, c'est du 43. Bon, ben, écoute, ça va, je peux te les passer. Je pense que j'ai acheté ces chaussures pour eux. L'argent ne nous appartient plus à nous. Il appartient au royaume. Nous sommes juste des gestionnaires. L'argent que tu as ne t'appartient pas. Ça ne veut pas dire qu'on les dépense n'importe comment, mais dans Actes, il y avait marqué tout ce qu'ils avaient. Personne ne disait que ça lui appartenait en propre. Il disait que c'était à toute la communauté. Alors je ne dis pas maintenant qu'il faut faire tout ce qu'on fait les actes, parce que je ne comprends pas encore. Ils ont tout vendu, les maisons, leurs biens, et ils ont emmené au pied des apôtres. Et en même temps, moi, il me semble qu'on doit aussi avoir des biens, il doit y avoir de la gestion. Donc je ne dis pas ce qu'il faut tout vendre. Je dis, une chose est sûre, que ce que j'ai ne m'appartient pas. Je suis un gestionnaire, j'en suis responsable. Comment je le gère? Je dois le gérer avec la sagesse de Dieu. Et savoir que ça appartient au corps. C'est pour bénir le corps. Et ce que j'investirai dans le royaume, je le recevrai. Quand le Seigneur viendra, il aura besoin de gens qui vont gérer des quartiers, des villes, des régions, des pays. Il va falloir guérir les nations, parce que les nations auront souffert des guerres, des maladies, des famines. Les pays vont souffrir et les centrales nucléaires, je ne sais pas ce qu'on va faire. Est-ce que le Seigneur va renouveler avant le millénium? Je ne suis pas sûr. Il me semble qu'il va renouveler après. Donc il va y avoir du travail à faire. Vous êtes ceux qui vont travailler avec Jésus. Jésus va avoir besoin de vous. Nous sommes en train de nous préparer pour la venue du roi. Ce n'est rien d'autre que ça. Il y a une guerre entre deux royaumes. Un royaume qui veut établir la destruction et la perdition sur la terre. Par tous les moyens possibles. Tout lui est bon. La tricherie, la tromperie. Il a tout dans ses mains. Les royaumes de la terre lui appartiennent. Le cinéma lui appartient. Les télés lui appartiennent. L'argent, les banques, tout lui appartiennent. Mais le Seigneur vient et il dit, je suis le roi des rois au-dessus de tout ça. Et vous inquiétez pas, je suis déjà là. Je ne suis pas à l'extérieur en train de regarder. Je suis au milieu. Je suis avec vous. Et vous allez travailler déjà maintenant. Déjà maintenant, vous compterez ce royaume qui cherche à s'établir. Par la foi, par la proclamation, par les miracles, par cette onction apostolique dont parlait Anne, par les différentes onctions. Vous combattez ce royaume. Vous êtes en train d'apprendre à combattre et à gérer. On est en plein apprentissage. Mais on ne peut pas y échapper. On ne peut pas juste dire, pendant des siècles, quelque part, on pouvait dire, je vais vivre, construire, établir ma descendance, etc. Et puis je jouis de la vie. Quelque part, c'est fini. Quand la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, d'un coup, tout plein de projets se sont arrêtés et on a fait face à la guerre. Des choses ont été perdues. Mais en même temps, des choses ont été apprises. On a appris. Il y a eu une économie qui s'est mise en place. Il y a eu des soutiens, de l'aide. Et c'est ainsi que ça se passe. Le royaume de Dieu vient on est en train de se préparer pour ce temps-là. Que la sagesse de Dieu soit avec nous, on en a besoin. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans 2 Timothée 4,8, il y a marqué, on peut le prendre, 2 Timothée 4,8. J'ai combattu au verset 7. Paul dit même à la fin du verset 6, le moment de mon départ arrive. Il savait qu'il allait partir vers le Seigneur. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Vous avez vu qu'il y a une question ici, j'ai gardé la foi. Dans les temps qui viennent, dans 2 Thessaloniciens, il y avait parlé de la grande apostasie. C'est des temps où notre foi va être tentée. Nous allons être tentés dans notre foi. Plein de choses vont venir nous bombarder pour que nous abandonnions notre foi et que nous soyons perdus. Paul y dira, j'ai gardé la foi. C'est que sa foi était attaquée. Il aurait pu perdre la foi. Il aurait pu être rejeté avec les autres. Il dit, j'ai gagné le combat. J'ai fini ma course jusqu'au bout. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé sa parousie. Tous ceux qui auront aimé son... Excusez-moi, je crois que ce n'est pas parousie, là je crois que c'est épiphanie. Épiphanie, c'est le deuxième mot, son apparition. En fait, l'apparition, ça veut dire que celui qui est rendu visible, justement. Tous ceux qui auront aimé son épiphanie, son avènement. Est-ce que nous aimons son avènement? Souvent, j'entendais vivement que le Seigneur vienne me chercher. Ce n'est pas la vision du Seigneur. La vision du Seigneur, ce n'est pas qu'il vient nous prendre et nous emmener loin. C'est qu'on est en train d'apprendre à combattre, à établir son royaume sur la terre. Il est avec nous dans le combat. Et un jour, il va se manifester comme le roi, celui qui était déjà là. Il va manifester sa gloire. Et nous serons avec lui. Il nous aura rassemblés. Il y a deux mots qui sont souvent ensemble, c'est quand l'avènement vient, il y a l'avènement du Seigneur et le rassemblement des élus. Ce n'est pas un enlèvement, c'est un rassemblement. Nous sommes rassemblés autour de Jésus. Et quand Jésus vient et qu'il établit son règne, nous sommes avec lui et nous l'accompagnons. Nous sommes avec lui. Il y a une venue de Jésus, une parution dans la gloire et nous sommes rassemblés avec lui pour rentrer dans son règne. sur la terre. Dans 2 Thessaloniciens 2:1, on peut revenir. Je ne sais pas pourquoi le Paul parlait tellement de la venue du Seigneur aux Thessaloniciens, c'est bizarre. Pour ce qui concerne la parousie de notre Seigneur Jésus-Christ, donc sa venue, son apparition et notre rassemblement avec lui, nous vous prions, frères. Alors il y a encore une question qui vient. Est-ce que cette venue de Jésus vient avant cette fameuse grande tribulation qui nous attend? Et souvent, j'ai entendu dire qu'elle venait avant. Et regardez ce que Paul dit. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Ne vous laissez pas troubler, soit par quelque inspiration, soit par des paroles, soit par une lettre. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie, donc le rejet de Dieu et l'abandon de la foi, soit arrivé auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, etc. Il faut que lui soit là avant que vienne l'avènement. Vous savez que verset 7, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. On ne sait pas entièrement si c'est le Saint-Esprit à un moment donné qui a été répandu, qui va se retirer. On ne sait pas entièrement ce que c'est. Alors paraîtra, donc il y aura une parousie de l'homme impie que le Seigneur Jésus va détruire par le souffle de sa bouche. Il va le détruire. Il va l'écraser par l'épiphanie de sa parousie. Ça doit vous faire bizarre que j'utilise ces mots grecs, mais je pense que ça veut dire des choses tellement belles. Il va l'écraser par l'épiphanie, c'est donc le fait qu'il soit rendu visible et qu'il apparaît en même temps, l'épiphanie de sa parousie, l'éclat de son avènement. Donc Jésus vient, il va rassembler ses élus, mais ce ne sera pas avant les temps difficiles. Ça veut dire que nous devons nous préparer pour ces temps difficiles, nous devons y être prêts, nous devons savoir qu'ils arrivent. Je ne pense pas qu'on va les éviter. Je pense même qu'ils ont déjà commencé de toute façon. Donc nous devons nous préparer, avoir la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Et une des premières choses, c'est que nous nous rapprochions les uns des autres. Que nous ne nous jugions pas les uns les autres. Si vous regardez les passages, nous ne nous jugeons pas les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Partageons les uns avec les autres. Il va y avoir une économie parallèle. Quand la marque va arriver, qu'on ne pourra plus acheter ni vendre, comment va-t-on faire? Ces temps-là arrivent. N'en ayons pas peur. Parce que ce sera des temps où la révélation de Jésus-Christ va être révélée. C'est Mike Bickel qui s'occupe de 24 heures de prière à Kansas City. Il a beaucoup parlé sur tous ces temps de la fin. Et il dit que l'Apocalypse, donc la révélation de Jésus-Christ, est comme le livre des Actes des Apôtres écrit en avance. Qu'est-ce que c'est les Actes des Apôtres? C'est tout ce qui s'est passé après la mort de Jésus, quand il est monté au ciel. On avait décrit tous les actes des apôtres, en fait les actes de l'Esprit. Et il dit, la révélation de Jésus-Christ, c'est une description de tout ce qui arrive pour que l'Église sache comment se préparer, comment prier. C'est un acte de guerre, c'est une description de comment mener la guerre dans ces temps-là. Je trouve que c'est vraiment intéressant. La révélation de Jésus-Christ, c'est marqué « Heureux celui qui lit ce livre et qui écoute ». C'est un livre qu'on ne doit pas mettre de côté. C'est un livre qu'on doit lire, étudier, manger, même si on ne comprend pas tout. Parce qu'au moment donné, quand on en aura besoin, ces paroles seront là et on comprendra certaines choses et on saura comment agir dans certaines choses. Amen. Je ne vais pas lire tous les passages que j'ai préparés là-dessus. Ça vaudrait la peine que vous recherchiez un petit peu sur tout ce qui est avènement du Seigneur. La seule chose que je voudrais dire pour terminer, c'est cette idée du rassemblement. Vous savez que quand Jésus est arrivé à Jérusalem, effectivement, tout le monde attendait de lui qu'il manifeste son royaume. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, Jérusalem, tant de fois j'ai voulu vous rassembler. Jésus a toujours eu dans son cœur ce désir de rassembler sous ses ailes. Comme une poule rassemble ses poussins, il les porte, les nourrit, les couvre, et ensuite travaille avec eux. C'est ce que Jésus a toujours voulu faire. Mais ils ne l'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu être rassemblés. Ils ont voulu vivre une vie qui était pas mal, une vie intéressante, une vie bien. Jérusalem, la vie devait être quand même, c'était une belle ville, la vie était intéressante. À quoi ça leur servait que Jésus vienne et les rassemble? Et quelque part, il y a une histoire de volonté. Vous avez vu, toutes les fois, on dit, ils ne l'ont pas voulu. Au contraire, il y en a de ceux qui ont aimé son avènement. Et Jésus nous pousse, aimez mon avènement. Aimez ma venue, ma parution dans la gloire, quand je vais venir pour régner, pour écraser l'ennemi. Aimez ce retour. Aimez quand je vais vous rassembler et vous prendre avec moi. Et on peut lire dans Deutéronome 32, verset 9. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. On peut penser à la France, hein, quand on a reparlé de la France tout à l'heure, je pensais à ce passage aussi. Et la France, tu as été trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il t'a entouré, il t'a pris soin de toi. Il t'a gardé comme la prunelle de son œil, on peut dire de chaque nation. Chaque nation va être livrée, va être comme une contrée déserte, une solitude avec des effroyables hurlements. Et qu'est-ce que le Seigneur veut faire de chaque nation? Il veut l'entourer, il veut en prendre soin, il veut la garder comme la prunelle de son œil. Et verset 11, le Seigneur va être pareil à l'aigle qui éveille, rassemble sa couvée. Il voltige sur ses petits, il déploie ses ailes, il les prend, il les porte sur ses plumes. Amen. Verset 13, il a fait monter sur les hauteurs du pays Israël à manger les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Le Seigneur veut nous prendre et nous rassembler. Mais il ne va pas seulement le faire quand il va venir. Dès aujourd'hui, le Seigneur nous prend et il nous rassemble. Comme une poule qui nous prend sous ses ailes. Il veut nous conduire. L'Éternel seul conduit son peuple. Il n'y a avec lui aucun autre Dieu étranger. Il nous conduit. Il veut prendre soin de nous, comme une poule prend soin de ses petits. Et il lui a fait sucer le miel du rocher. Vous avez déjà vu du miel qui sortait du rocher? Sucer, c'est le verbe, c'est le verbe yanak. C'est ce que font les bébés quand ils boivent le lait au sein de la maman. Ils font ce verbe-là, sucer le miel. Le Seigneur veut qu'on apprenne, dans ces temps où on est maintenant, a commencé à nous nourrir du miel qui coule de sa poitrine. Vous vous rappelez quand j'avais parlé de Jean qui était couché sur la poitrine de Jésus? Il était là, il écoutait les paroles qui coulaient de la bouche de Jésus. Il suçait comme un bébé, il buvait le lait, il buvait les paroles de Jésus. Vous savez qui c'est qui fait le miel? C'est les abeilles. Les abeilles, en hébreu, c'est Déborah. Déborah, c'est le premier mot de Deutéronome. Deutéronome, en fait, on pourrait l'appeler Déborah, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Nous sommes appelés à manger les paroles qui sortent de la bouche de notre Sauveur, à poser notre tête sur sa poitrine, à écouter. La seule protection qu'on va avoir de plus en plus, c'est d'entendre sa voix, d'avoir su nous nourrir des paroles de sa bouche, des paroles du livre et des paroles de sa présence. Vous vous rappelez quand j'avais parlé sur le verbe sur le conseil du Seigneur, être dans le conseil du Seigneur, écouter sa voix. Et dans la semaine, j'ai entendu à la radio qu'il y avait quelqu'un qui faisait un spectacle à Paris qui s'appelait Divin Divan. Ben, je me suis dit, ça aurait pu être un des titres de ce que j'ai partagé, le Divin Divan. Il y a un Divin Divan qui nous attend. C'est Jésus qui est là, assis, et nous pousse à venir, viens. Approche-toi de ma présence, je suis le Dieu vivant et vrai, j'ai des paroles à te donner, je veux te parler, je veux te nourrir comme un bébé, comme une maman prend soin de son bébé, comme la poule prend soin de ses petits, je veux te nourrir, je veux prendre soin de toi, j'ai des paroles pour toi, dans mon livre et par mon esprit dans ton cœur, je veux te nourrir, je veux t'apprendre, je veux te former, je veux t'enseigner. Alléluia Jésus. Alléluia. Dans Cantique des Cantiques, tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il lui a sous ta langue du miel et du lait. Amen. Et vous savez ce que ça veut dire, distiller le miel? C'est le verbe nataf. Tomber en gouttes, dégoûter, distiller, prophétiser, prêcher. Et c'est un verbe qui est utilisé plusieurs fois pour décrire un prophète ou celui qui prophétise. On va apprendre à manger du miel. Ça veut dire que le Seigneur veut prophétiser à nos cœurs. Et on va apprendre à donner du miel. Le Seigneur, il dit, de ta bouche, ma belle, coule du lait et du miel. Quand nous, on apprend à manger du miel, du rocher, Christ est le rocher. On mange ce miel de notre rocher. Et le rocher, c'est aussi des temps. C'est quelque chose de dur. A priori, rien ne va venir du rocher. Et qu'est-ce que ça, c'est l'image du Seigneur, mais c'est aussi l'image de temps difficiles dans nos vies. Je vis des temps difficiles. Ça me paraît horrible ce qui se passe. Je ne comprends rien. Il n'y a plus rien autour de moi. Je ne reçois rien. Je ne comprends rien. Je ne vois rien. Je n'ai rien. C'est sec, dur dans ma vie. C'est comme du rocher. Et parce que je m'approche du Seigneur, parce que je pose ma tête sur sa poitrine, parce que je m'assois à côté de lui sur le canapé, il y a du miel qui commence à couler. Et ça commence à rentrer dans mon entrailles, dans mon cœur. Et je suis nourri au travers de l'épreuve. Il y a du miel qui commence à couler de l'épreuve, de ce temps difficile. Il y a quelque chose qui est en train d'être semé dans mes entrailles, dans mon cœur. Et à un moment donné, ce miel que j'ai emmagasiné comme une abeille, que j'ai mis dans la ruche de mes entrailles, de mon cœur, à un moment donné, va commencer à nourrir des nations. Ce sera un miel qui va couler pour les nations, qui va guérir des nations. Et j'irai comme prophétiser pour les nations. Amen. Alléluia, Jésus. Eh bien, Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous te louons parce que nous sommes ceux que tu aimes, ceux que tu recherches. Nous sommes les désirés de ton cœur. Nous sommes les recherchés. Chacun de nous y a marqué comme nom. Un des noms principaux sur chacune de nos vies y a marqué « Recherché ». Je t'appelle recherché. Je t'appelle désiré. Je t'appelle celle que j'ai recherchée depuis longtemps. Ça fait des années que je t'appelle, ça fait des années que je te cherche, ça fait des années que je te cours après, ça fait des années que je parle à ton cœur, ça fait des années que j'ai envie que tu sois à moi, que l'on ait des temps intimes, que tu puisses comprendre ce qui vient de mon cœur et de ma bouche. Ça fait des années que tu m'as dit non. Et ça fait des années que je continue. Je continue. Je t'appelle encore et je te parle encore. Et je te dis, ne continue pas encore longtemps de résister. Parce qu'un temps viendra où mes appels peuvent cesser. Mais je t'aime. Il y a marqué sur ta vie recherché, désiré, appelé. Je te désire comme un fiancé désire sa fiancée. Je t'aime, je te recherche. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Kora la varakana marakida. Seigneur. Kora varakida. Tu sais que je me sens faible dans ce que j'ai voulu apporter. Mais Seigneur, je te prie que tu saisisses nos cœurs par l'amour de ton retour, l'amour de ta parousie, de ton approche, de ton arrivée, de ton avènement. Que nos cœurs soient saisis d'amour pour ce temps-là et que nous combattions pour le roi qui vient. Qu'il n'y ait pas un jour que le Seigneur me dise « Ceux qui n'ont pas voulu de mon règne sur eux, qu'ils soient tués en ma présence. » Seigneur, je vais être de ceux qui ont aimé ton règne, de ceux qui ont aimé ton avènement, de ceux qui ont aimé que tu viennes. Et Seigneur, je te loue parce que dans ce temps où il va y avoir tellement de volonté de refuser le roi, où il va y avoir un rejet total de toutes les lois du roi, l'établissement de lois iniques, le mal va être appelé bien, le bien va être appelé mal. La foi va être attaquée de toutes parts. Où nous allons être tentés, séduits dans plein de domaines. Seigneur, que nos cœurs refuse le règne de la méchanceté. Refuse tous les moyens de séduction de l'ennemi. Il va venir avec tous les moyens de séduction, nous dit la parole. Il viendra avec les prodiges de l'ennemi. Il viendra pour ressembler à Jésus-Christ lui-même. Nos cœurs visuels, nos yeux visuels, nous diront, mais ça doit être Jésus. Ça ressemble. C'est lui, c'est le Seigneur. On ne pensera peut-être même pas que ce n'est pas Dieu. Et ce sera toute la panoplie de l'ennemi manifestée pour nous troubler, nous tromper et nous séparer de notre du bien-aimé. Seigneur, c'est maintenant que nous voulons développer l'amour de ton nom, l'amour de ton avènement, l'amour de la vérité, l'amour de ton règne sur nous, l'amour de la justice. Seigneur, que ces choses, nous les recherchions, nous les attachions à nos cœurs, que nous recherchions ta parole, le miel de ta parole, le miel de ta présence. Seigneur, de tout notre cœur, nous voulons cela. Et Seigneur, nous reconnaissons qu'il y a une grande part de notre volonté. Parce que tu dis, il y en a qui n'ont pas voulu, et il y a ceux qui ont voulu. Et Seigneur, nous voulons ton règne. Nous voulons ton avènement. Nous voulons ta gloire dans nos vies. Nous rentrons dans cet acte de décision que nous voulons nous battre à tes côtés. Nous voulons investir dans ton royaume. Nous voulons rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, nous le voulons. Nous voulons investir tout ce que tu nous donnes dans ton royaume. Nous ne voulons pas enterrer ces choses-là. Tout ce que nous te donnons, nous ne l'enterrons pas. Nous voulons l'investir dans ton royaume. Alléluia. Alléluia, papa. Seigneur, je te loue. Je te bénis, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tu voulais finir?